Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Le Moyen-Orient avant le Moyen-Orient.
Tiens donc, partage terminé. Tous les côtés asiatiques pour vous, le reste pour moi.
Sire, voilà une affaire de la plus haute importance réglée une fois pour toutes. Nos zones d'influence sont désormais nettement délimitées selon les lois de l'équité. L'avenir est entre nos mains.
Une fois pour toutes. Aujourd'hui, le Moyen-Orient, c'est le complexe, c'est le mouvant. L'influence des puissances occidentales y est de moins en moins prégnante. Le Royaume-Uni lui-même a renoncé à y jouer un rôle déterminant. Ce sont les Britanniques pourtant qui ont le plus contribué à modeler la région. Dès 1809, ils tiraient leur premier coup de canon au fond du Golfe. Mais un siècle plus tard, en 1903, c'était des coups de canon d'hommage qui accompagnaient d'île en port la tournée que faisait dans la région l'escadre de Lord Curzon. Curzon était alors vice-roi des Indes. C'est à partir des Indes et en fonction des intérêts des Indes que la région a été peu à peu agencée. C'était du siège de Bombay de l'East India Company que partaient les initiatives. Le but était, pour verrouiller le contrôle des Indes, d'ouvrir l'espace du Golfe. À entendre la propagande britannique, l'intention était de faire disparaître les fléaux qu'elle représentait comme constitutifs de la région, l'esclavage, la piraterie, les trafics. Mais on sait que l'humanisme proclamé et l'impérialisme peuvent aller de pair. Les explorations pétrolières vinrent bien plus tard. C'était, disait François Crouzet, une supériorité britannique que d'avoir su construire en amont un empire informel, maritime. Avant le Moyen-Orient tel qu'il se constitua avec ses états fragiles dessinés par les grandes puissances, il y eut une peau de léopard britannique.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Guillemette Crouzet, bonjour.
Bonjour.
Vous aurez apprécié que, je cite, parce que vous appartenez à une grande dynastie d'historiens, votre grand-père, vous êtes né le jour où il mettait la main à la préface de son livre fameux sur la supériorité britannique.
Rédigé à All Souls College.
Oui, alors vous avez vous aussi une formation très britannique, mais aussi italienne. Vous avez aussi un diplôme d'arabe. Enfin bref, vous aviez de quoi vous attaquer à un grand espace géographique. Vous publiez un livre vraiment remarquable, Genèse au pluriel du Moyen-Orient, chez Jean Vallon, qui fait référence modestement à l'exemple de Braudel, la Méditerranée, les grands espaces.
J'ai essayé véritablement de suivre le modèle braudelien. Le but premier du livre, c'est d'expliquer une double construction qui s'organise à partir des Indes, parce que moi, c'est ce qui me paraissait vraiment important, la description de ce sous-impérialisme qui s'orchestre depuis Bombay, depuis Calcutta, dans ce qui est un centre de l'Empire britannique et un empire indépendant. Et ça a été de montrer, à partir aussi, par exemple, de la formule de Shugata Bose, que c'était des espaces qui ne connaissaient pas de frontières, que c'était des mondes connectés, allant de la mer Rouge, en passant par la péninsule arabique, le Golfe, l'Asie centrale, la Corne de l'Afrique et l'océan Indien. Au milieu de tous ces réseaux, parmi tous ces réseaux, en fait, les Britanniques se sont installés et ont construit deux espaces, en quelque sorte enchâssés, d'abord le Golfe, puis le Moyen-Orient, sur le temps long d'un très long 19e siècle qui est l'objet du livre.
Alors on va commencer, nous, par le premier 19e siècle, en parlant surtout du Golfe, où l'Empire ottoman voyait son autorité peu à peu décliner, mais n'avait jamais été si forte que ça, où la Perse était encore influente et où il y avait déjà des petits états commerciaux sur la côte sud. On part toujours avec vous, Guillemette Crouzet, du point de vue des Indes et de la Compagnie des Indes orientales et de sa présidence de Bombay. Vraiment, du côté des Indes, on avait le sentiment, on est en 1800 ou les années suivantes, qu'il peut y avoir un danger français. C'est un danger purement virtuel.
Il est virtuel, mais en même temps, il est réel. Moi, c'est ce que j'ai pu retrouver dans les archives que j'ai consultées, notamment les archives de la présidence de Bombay, qui se trouvent dans l'état du Maharashtra, d'autres qui sont conservées aussi à Londres. C'est de voir qu'à partir du moment où les Français sont en Égypte, tout est possible. Et il y a un fantasme qui va être celui d'une possible invasion par les Français des Indes, et notamment par celui qu'on appelle le perturbateur de l'Europe, Napoléon. Et il y a une sorte de logique dans cette imaginaire à penser que parce que les Britanniques sont en Égypte, ils ont la possibilité d'envoyer des troupes envahir les Indes en prenant appui sur des points, des ports du Golfe et aussi à travers les îles de l'océan Indien. Et l'imaginaire rejoint la réalité quand les Britanniques ont vent, malgré tout, d'un activisme de Napoléon qui est réel. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les corsaires français qui vont venir perturber le commerce britannique et il y a aussi, par exemple, l'ambassade du général de Gardanne à Téhéran après le traité de Finkelstein. Les Français qui participent de la réorganisation et de la modernisation de l'armée perse.
Oui, mais vous parlez des corsaires français, mais le vrai danger réel permanent, enfin il est présenté comme tel, peut-être les Britanniques l'exagèrent-ils, c'est le danger de la piraterie. Alors vous faites un portrait très haut en couleur des méchants Kawasimi.
Les Kawasimi qui seraient installés à Ras El Khaimah, sur les bords du détroit d'Ormuz, cité fortifiée, qui sera donc bombardé en 1809 et en 1819, avec ces pirates Kawasimi qui sont accusés de troubler la paix des mers en se livrant à des attaques de piraterie, et notamment de très violentes attaques de piraterie sur les bateaux de l'East India Company.
Vous faites des portraits étonnants de ces Kawasimi. Physiquement, ils sont bancroches souvent dans l'imaginaire britannique.
Avec la figure de Rama bin Jaber, ce pirate qui a perdu un bras, qui est couvert de cicatrices, qui est vêtu à la fois de haillons mais en même temps d'un turban avec pour cette touche orientale. Et c'est là que, à une possible réalité, se joint un imaginaire littéraire qui est très fécond.
Donc 1809, 1819, les premiers coups de canon qui sont tirés en une, deux, trois, quatre expéditions au fond du Golfe, c'est le début de la mainmise des Indes. Mais les Indes, c'est d'abord la Compagnie des Indes, c'est la présidence de Bombay, c'est un empire maritime avec des comptoirs et des agents. Alors que dans notre imaginaire, on parle toujours d'imaginaire au fond dans cette émission, la conquête des Indes, c'est d'abord une conquête territoriale, on en a une vision continentale. Tenez, un extrait de la charge de la brigade légère de Curtis avec Errol Flynn, où on voit un prince indien fourbe faire prisonnier de beaux et loyaux officiers anglais à qui il a tendu un piège.
Soyez le bienvenu, commandant Vickers. Que les dieux du courage et de la sagesse continuent à vous prodiguer leur bénédiction.
Votre Altesse, je vous demanderai d'en venir rapidement au fait.
Très bien.
Vous savez probablement qu'un message a atteint le Hara et que toute la brigade vient nous secourir.
Oh, cela me peine profondément de vous décevoir à ce sujet, commandant. Mais si c'est cet homme...
Oui, le capitaine Randall.
Oh, ainsi c'est le capitaine Randall qui essayait si imprudemment de franchir les lignes. Pauvre garçon. Il a payé de sa vie le prix de sa témérité.
En dépit de vos actes inamicaux, mon gouvernement a conservé une attitude conciliante. Si vous retirez vos forces maintenant, vous feriez un geste qui presque certainement nous inciterait à la reprise de négociations à Calcutta. Vous ne combattez pas un simple poste. Vous combattez toute l'armée britannique.
Votre logique, mon cher commandant, est désarmante. Non, mon ami, je ne crois pas que vous réussissiez à me faire accepter vos optimistes suggestions. D'ailleurs, n'y a-t-il pas un proverbe anglais qui dit que posséder, c'est 9/10 de la loi?
Alors je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Mais au contraire, si nous sommes francs et honnêtes l'un vis-à-vis de l'autre, cette affaire peut se régler raisonnablement.
Avant tout, il faudrait que vous garantissiez la sécurité des femmes et des enfants.
La solution rationnelle serait l'évacuation.
Évacuation, vous voulez dire reddition?
Qui sait? Et je pourrais faire donner à la garnison une escorte jusqu'à Loara.
J'ai toute raison de croire que nous estimerions cette solution satisfaisante.
En fréquentant vos écoles anglaises, j'ai appris votre charmante coutume du shake-hands, marquant la conclusion d'un marché entre deux gentlemen. Naturellement, la garnison livrera ses armes.
Vous vous décrivez, Guillemette Crouzet, un empire encore plus subtil, avec des frontières maritimes, une mise en scène territoriale qui est organisée par la cartographie.
La cartographie est un outil de l'impérialisme et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. C'est que dans cet espace où sont pourtant rentrés les bateaux en 1809 et en 1819, c'est un espace qui est très mal connu, très mal cartographié. D'abord, de Calcutta et de Bombay, on envoie des ingénieurs, des cartographes faire des relevés dans le sud du Golfe. Il y aura après la Mésopotamie, espace hautement stratégique, et en dernier lieu, ce que l'on appelle l'Upper Gulf, le nord du Golfe.
Eh bien, on va aller à une extrémité de notre espace, ce que vous nommez le hub à esclaves de Zanzibar. Parce que l'influence maritime des Indes va jusque-là. Dans la première moitié du 19e siècle, peut-être 10 000 à 15 000 esclaves importés d'Afrique jusqu'à Zanzibar, passaient par l'île avant d'être dispersés plus loin.
Je partais pêcher les perles au large de Massawa. Un soir...
Qui est-ce? Je connais.
Alors qui est-ce?
Ce sont des amis à moi.
Et tu les reconnais de si loin? C'est un embarquement d'esclaves.
Tu sais ça aussi?
À Zanzibar, c'est le lieu par lequel transitaient toutes les marchandises qui étaient destinées au continent.
Les esclaves étaient amenés depuis le port de Bagamoyo sur le continent. Ils étaient gardés dans deux pièces à la cave, sans manger. 150 dans cette pièce et 200 dans l'autre. Et là, au milieu, entre les deux, il y avait les soldats, armés, pour les garder.
Sous la pression anglaise, le sultan de Zanzibar supprime officiellement l'esclavage. On construira une cathédrale à la place du marché aux esclaves. Au pied de l'autel, d'un côté, l'emplacement du poteau où étaient fouettés les esclaves.
Alors la pression va venir peu à peu de la part des Britanniques. Parce que vous dites, Guillemette Crouzet, que bon, les Indes, la présidence de Bombay, la compagnie, bon, laissaient faire d'une certaine manière le trafic qui de Zanzibar allait vers la mer Rouge, vers Mascate et le Golfe.
Oui, comme le montre l'extrait, il y a une complexité, une profondeur des réseaux et la traite est à la fois pour les marchands indiens véritablement un secteur économique dominant ou un secteur complémentaire pour ces marchands, ces populations maritimes des rives du Golfe et de l'océan Indien. Et là, il y a une différence temporelle puisque au début, effectivement, la présidence va laisser faire alors qu'il y a eu le formidable activisme à Londres de la Grande-Bretagne qui se fait le chantre de la lutte contre la traite et contre l'esclavage parce que, sans doute, après l'action contre la piraterie, il faut trouver un nouveau moyen pour exercer la domination sur les mers, l'impérialisme et la lutte contre la traite est un prétexte.
Ah bon ?
Moi, c'est ce que j'ai décrit.
Abolitionnisme
et impérialisme, dans le nord de l'océan Indien, dans le Golfe, dans la péninsule arabique, vont véritablement de pair.
Donc l'ingérence au nom des droits de l'homme, comme on dirait aujourd'hui.
Un humanitarisme qui se fait aussi au nom de l'impérialisme.
Ouais. Alors, plus tard, Londres fera davantage pression que Bombay, mais là, on arrive peu à peu à notre deuxième période, au deuxième 19e siècle. Mais je voudrais qu'on fasse une pause, qu'on traverse peut-être lentement et cérémonieusement le désert. D'ailleurs, vers 1850, qu'est-ce qu'on savait du désert de Mésopotamie? Qu'est-ce qu'on savait du désert d'Arabie?
Le désert de Mésopotamie, en 1850, il commence à être peu à peu assez bien connu. Parce qu'il y a les grandes campagnes de survey qui sont orchestrées. Il y a aussi la fascination pour l'histoire de cette zone avec l'archéologie qui va révéler la géographie, les contours géographiques de cette vaste région que les Britanniques appellent la Mésopotamie, qui se divise entre la haute et la basse Mésopotamie. Pour la péninsule arabique, l'histoire est un petit peu différente. Il y a eu des voyages, dits d'exploration, même s'il faut prendre le terme avec précaution, mais la péninsule arabique est moins connue. On connaît la portion nord du sultanat d'Oman, on connaît certaines zones de l'intérieur de la péninsule arabique, mais les choses vont venir davantage dans la seconde moitié du 19e siècle.
Mais on disait déjà dans la première moitié du 19e siècle que les Wahhabites étaient marqués par le fanatisme religieux, parce qu'ils étaient déjà là, c'était un groupe émergent.
Il y a cette coloration religieuse, il y a cette coloration rhétorique dans les archives britanniques. Et d'ailleurs, au moment du combat contre la piraterie, notamment dans la période qui suit la première intervention de 1810 à 1819, la rhétorique change légèrement. C'est-à-dire que les fameux Kawazimi, mais aussi toutes les populations du Golfe, sont accusés d'être les bras droits sur les mers des fameux Wahhabites. Donc la piraterie est vue comme indissociable d'un fanatisme religieux. Les pirates, en attaquant les bateaux, en perturbant la paix des mers, sont aussi responsables de répandre ce fanatisme, ce qui est vu comme un fanatisme religieux par les Britanniques.
Nous parlons avec vous des genèses du Moyen-Orient, du Golfe, frontière d'eau et frontière de sable, le désert, selon Maurice Jarre.
Thank you.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le Moyen-Orient avant le Moyen-Orient, pour reprendre le titre de votre livre chez Jean Vallon, Guillemette Crouzet, Genèse au pluriel du Moyen-Orient. On avance peu à peu dans le 19e siècle. Il va y avoir des puissances nouvelles qui vont intervenir. Il n'y a plus seulement les Britanniques.
Il y a tout au long du 19e siècle d'autres puissances qui sont présentes dans le Golfe. Il y a la Perse qui reste toujours une puissance à prendre en compte que les Britanniques prêtent en compte. Il y a l'Empire ottoman. Il y a eu les Français qui vont revenir en quelque sorte faire un comeback à la fin du 19e siècle. Il y a aussi et surtout les Russes. Et il y aura à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, tout particulièrement les Allemands avec le projet du Bagdad Ban qui effraie.
Alors les Russes, on va les entendre. Je suis un peu désolé, mais c'est une idée de Jacques Sigal et de moi-même de vous présenter comme un son sérieux un extrait de Signé Furax. Et oui, on va présenter les Russes à l'action dans la région selon le feuilleton de Pierre Dac et Francis Blanche. À 30 ans, vous n'avez jamais entendu ça. Hein?
Non, c'est une découverte aussi.
On va jouer nos zones d'influence au dé. Le sort nous départagera. Prince Menchikov, apporte une grande carte et les dés.
Voilà, sire.
Alors voyons, qu'est-ce qui vous intéresse déjà?
Tous les continents asiatiques, sire, plus quelques territoires avoisinant votre empire.
Donc j'ai bien fait de choisir les dés pour décision. Et par quoi on commence?
La Turquie!
Oh, gros morceau! Je lance. 10, presque gagné.
À moi.
C'est bien, les sorts à parler pour vous. On joue quoi maintenant?
Tous les restes!
Oui,
Afghanistan, Inde et toute la banlieue.
Et la périphérie.
Alors, encore vodka et alcool 90.
On voit comme un déplacement du centre de gravité dans le premier 19e siècle. Tout partait de Bombay et de la présidence de la Compagnie des Indes sise dans cette ville. Maintenant, les puissances occidentales interviennent davantage et vous insistez beaucoup sur leur prise en compte de l'espace plus au nord, la Mésopotamie, où les uns et les autres, avec l'aide de maisons de négoce, vont lancer les bateaux à vapeur, puis les trains à vapeur.
Oui, la Mésopotamie est vue comme un espace riche de mille possibilités. Et les Allemands, au fond, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, reprennent là-dessus une idée qui est présente dans l'esprit des Britanniques dès les années 1830-1840. La Mésopotamie, c'est la route parallèle de Suez qui, avec des steamers sur l'Euphrate ou un chemin de fer, donc avec le pouvoir de la vapeur, pourrait permettre de mettre en connexion la Méditerranée via le Golfe avec les Indes. Et donc de connecter un Occident avec un très vaste Orient, mais aussi avec l'océan Indien. Donc c'est un projet, un rêve de mise en connexion des terres et des mers, avec des figures à la fin, avant l'ouverture du canal de Suez, comme William Wilcox, qui rêvera de mettre en connexion, à travers cette Mésopotamie et le Golfe, la Méditerranée, Londres, avec les vallées les plus fertiles, par exemple, de l'Indus et des Indes.
Donc il y a le rapport Est-Ouest, mais pas seulement.
Il y a un rapport qui est en fait plus global et c'est là que le Golfe se décrit véritablement comme un espace plastique. C'est un espace qui permet de mettre en connexion et qui permet de mettre en connexion effectivement bien davantage que l'Est et l'Ouest, qui permet de mettre en connexion la mer Rouge avec l'Asie centrale, les Indes avec la corne de l'Afrique et de créer un vaste espace qui n'est plus qu'un espace qui protège les Indes, mais qui le met aussi en connexion, cet espace qui est et est en train de devenir le Moyen-Orient. C'est sa première définition.
Donc avant, c'était une frontière de protection des Indes. Maintenant, c'est un espace centre.
Un espace centre, un espace couloir, un espace qui permet de mettre en connexion, qui ne fait plus que protéger, qui commence aussi à exister en raison de ces mille et une possibilités, qui commence à exister par lui-même. Après, quand Valentine Chirol ou Alfred Fireman, à l'aube du XXe siècle, décriront « The Middle East », ils parleront d'abord de cet espace ou de ces espaces qui sont chargés de protéger les Indes.
Alors on va prendre un exemple de commerce tel qu'il est pratiqué dans cet espace. C'est le commerce de la perle qui vous est cher. Vous y consacrez dans Genèse du Moyen-Orient un long chapitre. Alors, le cycle de production, vous pouvez nous le décrire maintenant que vous en êtes devenue une spécialiste qui y met
Moi, je trouve que c'est un cycle tout à fait...
Le cycle de production.
Le cycle de production. On a des bancs de perles qui existent du nord au sud du Golfe, particulièrement sur la rive arabe, en raison de conditions géographiques qui sont propices au développement de ces huîtres perlières productrices de perles. Et le Golfe va devenir, en raison de paramètres divers, notamment la crise des pêcheries de Ceylan ou la crise des pêcheries de la mer Rouge, le principal espace de production des perles au cours du 19e siècle.
Les merveilleux œufs de poisson que livre la mer de mai à octobre sont l'objet de commerce. Leçon de commercialisation maintenant. Il fallait qu'on entende une fois un témoignage venu d'Henri de Montfred, grand aventurier français, dans cette émission « Les secrets de la mer Rouge » de Pierre Larry.
Il y a le nakuda qui vend.
Il y a aussi le courtier qui fait l'intermédiaire et qui pense à sa commission. Il y a moi, et puis il y a les perles. Le courtier va aller du nakuda à moi. S'il saisit un doigt, cela veut dire 1000. 2 doigts, 2000, etc.
Apprécié à sa juste valeur en lot. C'est une chose, mais le comble de la délicatesse, c'est de l'acheter un peu au-dessous de son juste prix.
Des pièces magnifiques. C'est du bilbil du grand fond.
Doucement, doucement. Tu me vendrais des crottes de chèvre que tu me dirais la même chose.
Monsieur Chuchana, tiens, regarde, regarde. 20 000 roupies.
1 000 roupies.
1 000 roupies? Alors, monsieur Chuchana, comment? Du bilbil du grand fond? 1 000 roupies pour la quantité? Ah, non, monsieur Chuchana. Toi, tu connais bien ça. Tu sais combien le travail, combien de plongeurs. Et toi, tu dis 1 000 roupies. Chouma.
1 500 roupies.
15 000 roupies.
Allez, apporte le thé.
Ces commerçants locaux, parce qu'il y a commerce régional qui s'emboîte dans un commerce international, ils vont ensuite diriger les perles où?
Alors les perles, c'est un produit à la fois régionalisé et mondialisé, avec des marchands indiens qui vont les vendre à Bombay, qui est un premier grand centre. Elles sont ensuite envoyées dans tout le sous-continent. Elles sont envoyées aussi commercialisées dans la zone de la Corne de l'Afrique, dans toute la zone de l'océan Indien, par exemple, aussi en Asie centrale. Mais c'est aussi un produit mondialisé qui va servir notamment la nacre des perles, qui va servir par exemple dans la fabrication des fameux petits boutons de nacre que l'on dans des usines que l'on trouve à la fois en Grande-Bretagne, dans la zone de la ceinture industrielle, et puis par exemple en France, dans l'Oise, avec les fabriques de boutons de Méru. Donc il y a à la fois cet aspect très pragmatique de ces perles qui sont pêchées, mondialisées avec la nacre, et puis bien sûr qui servent en bijoux, avec cette vogue de la perle qui va aller de la reine Victoria, donc de la cour britannique, au magnat, par exemple, de l'industrie américaine, les familles Vanderbilt, qui achètent massivement des perles du Golfe.
Où il apparaît, donc, dans cette histoire du Golfe peu à peu mondialisé, un cluster, c'est votre mot, dans l'Oise.
Le petit cluster de Méru, où on fabrique les boutons de nacre, dont la mode avait été lancée par les romantiques au cours du 19e siècle.
Méru et Andeville, on pourrait prendre d'autres exemples de produits commercialisés, les dattes. Et bien sûr, les armes. Puisque vous parlez de Méru et d'Andeville, alors qu'est-ce qu'il en est des Français dans cette région?
Les Français, qui étaient donc présents à l'aube du 19e siècle avec Napoléon, qui vont revenir ensuite à la fin du 19e siècle avec la réouverture du consulat de Mascate et surtout toute une série d'aventuriers avec par exemple le personnage d'Antonin Goguillet, un personnage tout à fait fascinant, un excellent arabisant qui a d'abord commencé une carrière comme interprète au tribunal de Tunis et puis après qui vient chercher fortune dans le Golfe. Il cherche et il trouve fortune d'abord dans le commerce de perles, puis ensuite dans le trafic d'armes avec toujours un rêve de grandeur coloniale pour la France. Il veut que la France vienne par divers projets véritablement contester, mettre fin à la domination britannique, notamment sur l'Oman qui est devenu ce nouveau point d'appui français dans le Golfe à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. Et c'est finalement davantage aux Français qu'Antonin Goguillet, parce qu'il est impliqué dans différentes affaires. C'est finalement aux Français qu'Antonin Goguillet causera le plus de soucis, à travers notamment les relations exécrables qu'il va entretenir avec le sultan d'Oman et plusieurs des membres de sa tribu. Et il va plutôt, Antonin Goguillet, risquer de mettre à mal la présence française et l'influence que les consuls français, les vice-consuls, ont réussi à obtenir, plutôt qu'il ne va faire du tort aux Britanniques et à cet impérialisme britannique qu'il détestait tant.
Mais il appartient bien à cette catégorie très particulière que sont les gens du Golfe qui ont des activités multiples, qui peuvent être à la fois intellectuelles, savantes et trafiquante.
Il n'est finalement Antonin Goüet qu'un exemple de tous ces aventuriers qui viennent chercher fortune dans le Golfe, aux côtés des courtiers en perles, comme les grandes familles des courtiers parisiens, la figure de Leonard Rosenthal, Wong Kaos, l'allemand, qui tire profit de cette géographie du Golfe qui est en quelque sorte mouvante et qui tire profit des interstices qui sont laissés par la puissance britannique. Et pour Goguet, c'est à la fois le trafic de perles qui lui assure au début un revenu et qui va lui permettre ensuite de s'engager dans le trafic d'armes avec la frontière nord-ouest des Indes qui est à la fin du 19e siècle en rébellion contre l'autorité de Calcutta.
L'autorité de Calcutta peut être contestée, n'empêche, 1903... On va finir ce moment auquel vous vous êtes consacré dans Genèse du Moyen-Orient, chez Champvallon, avec le personnage de Lord Curzon qui fait une grande tournée avec une escadre. Les îles et les ports le saluent de 30 coups de canon à chaque fois et il montre la pleine puissance britannique.
En 1903, Lord Curzon avec une escadre très impressionnante. C'est le plus grand déploiement de puissance militaire depuis les interventions de 1809 et 1819. Il vient montrer la toute-puissance de l'Empire des Indes, mais en même temps, il vient saluer les différents chèques qui ont émergé à travers les traités, à travers toutes les actions impérialistes, comme ces figures clés de l'impérialisme anglo-indien dans le Golfe. Il vient les saluer et il vient les consacrer comme des chevilles ouvrières de l'impérialisme qu'il compare au petit Maharaja, au Nizam, par exemple, de l'Empire des Indes. Et ça montre que le Golfe est devenu, comme les princely states des Indes, il est devenu véritablement une zone politique de l'Empire des Indes, mais en même temps qui est en train de s'autonomiser.
En train de s'autonomiser parce qu'elle va finalement se connecter avec la Mésopotamie dans une zone qu'on va nommer le Moyen-Orient. Alors voilà. De quand date l'expression et qu'est-ce qu'elle représente de nouveau?
Si on est très rigoureux, c'est 1902 et 1903, c'est-à-dire à la fois les travaux de Valentine Chirol et un article d'Alfred Thayer Mahan. Et ce qui est intéressant, c'est que Valentine Chirol a été un témoin du voyage de Lord Curzon dans le Golfe. Elle a de nouveau que l'expression Middle East, l'expression Moyen-Orient, avant n'existe pas. C'est la première fois qu'on voit le terme. Et d'ailleurs, Alfred Thayer Mahan aura cette expression « The Middle East, if I may use a term of which I have not seen ». Et d'abord, le Moyen-Orient, c'est le Golfe et les espaces adjacents, les espaces riverains. Donc ce Moyen-Orient qui est avant toute chose d'abord chargé de défendre les Indes et ensuite de les mettre en connexion avec le reste de l'Empire et d'autres espaces.
Puis viendront les explorations pétrolières, ce sera après la Première Guerre mondiale. Quelque chose me dit qu'après Genèse du Moyen-Orient, chez Champvallon, Guillemette Crouzet, vous consacrerez à ce nouvel âge de l'impérialisme britannique de plus en plus partagé. Merci à vous, l'émission était préparée par Martin Cellier avec à la réalisation Jacques Sigal et à la technique Julien Chabassu. Et demain, dans la marche de l'histoire, la Révolution française et les étrangers, de l'hospitalité à l'hostilité. Et au programme de la tête au carré, cher Mathieu.
Jean, on va s'intéresser aux cobayes de l'espace pour parler aujourd'hui médecine spatiale et expérience en apesanteur.
L'effet de l'apesanteur sur les os et les muscles.